France Info.
Et à la une ce matin, bonjour Solène Cressant.
Bonjour.
Les États-Unis semblent revoir leur copie pour l'Ukraine.
Après des négociations organisées en Suisse, une nouvelle version du plan de paix américain est validée par Kiev alors qu'il reprenait jusqu'ici les revendications de Moscou. La violence économique, bras financier des violences conjugales, une femme sur quatre assure en avoir déjà été victime, alerte la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Les premiers mots de Boualem Sansal sur ses conditions de détention en Algérie, des airs de pré-crise autour de Sébastien Lecornu après le rejet du budget et puis des airs de pré-vacances ce week-end grâce à la neige tombée dans les Alpes.
Bonne journée, bon réveil avec France Info.
On ne sait pas exactement sur quoi ils se sont entendus. On ne sait pas s'il y a des garanties de sécurité. On sait juste que Ukrainiens et Américains ont élaboré une nouvelle version du plan de paix que Donald Trump voulait imposer à Kiev. Le futur accord devra maintenir l'entière souveraineté de l'Ukraine, assure-t-il. Quelques louanges diplomatiques de la part de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Après pourtant une nouvelle attaque de Donald Trump qui accuse l'Ukraine d'ingratitude et alors que sur le front, la Russie avance toujours, frappe toujours, 4 morts hier soir à Kharkiv. Alors pour France Info, Virginie Pironon et Marc Garvenès ont pu passer 24 heures au plus près de la ligne de front dans le Donbass avec le premier corps d'Azov dans ce qu'ils appellent la zone de mort.
Oui, cette unité composée de 5 hommes est postée à 6 km environ des lignes ennemies. Sa mission, aider les soldats ukrainiens en première ligne en tirant sur les positions russes. Lorsque l'ordre est donné, ils doivent quitter leur abri, courir à découvert sur 60 mètres pour rejoindre leur canon. Artem, le plus jeune de l'équipe, 23 ans, est chargé de surveiller le ciel pendant l'opération.
Ma tâche, c'est de surveiller si un drone ennemi s'approche. S'il nous attaque, je lui tire dessus. Mais s'il ne nous voit pas, je ne tire pas, parce que sinon il pourrait nous repérer.
Sur le front, chacun tente de surmonter ses peurs. Pour Artem, c'est la mort, omniprésente.
Mourir.
C'est ce qui fait le plus peur.
Dans la vie civile, ce sont mes parents qui m'attendent.
Tous les jours, ils s'inquiètent pour moi. Ils prient pour moi.
Ma plus grande peur, c'est de ne plus revoir ma famille.
Voilà.
Au front, chaque heure compte. Nous avons passé 24 heures avec Artem, Oler, Valiko, Yuri et leur commandant, Valentin. Mais pour eux, la relève, ce sera dans 2 semaines.
Un reportage de Virginie Pironon à quelques kilomètres des lignes russes avec Yachar Fazilov et Marc Garvenès.
8h03 sur France Info, un homme de 39 ans mis en examen pour homicide sur conjoint en Isère.
Il est le compagnon d'une femme retrouvée dans une voiture la semaine dernière, le corps calciné. Quelques heures plus tard et en une seule journée, 4 féminicides ont eu lieu en France, dans le Gard, les Ardennes ou encore le Doubs. Et alors que demain marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une étude publiée ce matin par la Fédération nationale Solidarité Femmes et le Crédit Mutuel montre qu'une autre forme de violence existe parfois au sein des couples, la violence économique, Laurine Benjebria.
Près d'une femme sur quatre a déjà été victime de violences économiques, alerte la Fédération nationale Solidarité Femmes, sa directrice générale, Minegun Bay.
C'est priver quelqu'un de moyens de paiement. C'est du chantage économique, par exemple, demander des faveurs sexuelles en contrepartie d'acheter des goûters aux enfants.
C'est aussi parfois le contrôle des dépenses, la confiscation du salaire, ce qui entraîne une dépendance financière.
Quand on n'a pas de ressources financières, il est très difficile de partir. 48% des femmes n'auraient pas les moyens de pouvoir se financer un logement seul.
Pour lutter contre cette perte d'autonomie, sur les réseaux sociaux, Léa Lejeune, fondatrice du Média Plancage, délivre des conseils.
L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'épargne, le système des impôts.
Ou encore, comment gérer les dépenses en couple.
Souvent, les femmes ne sont pas conscientes des investissements. Par exemple, elles ont passé leur vie à payer les petites dépenses courantes. Si tout est au nom de monsieur, au moment de la séparation, c'est monsieur qui va tout récupérer.
Elle juge donc l'éducation financière essentielle.
L'information économique, c'est vraiment le pouvoir, l'indépendance, parce que c'est un geste qui nous permet d'avoir les moyens financiers de partir.
Et parmi ces moyens, le compte bancaire personnel, dont l'ouverture est désormais gratuite et simplifiée pour les victimes de violences conjugales.
Laurine Benjebria, une proposition de loi transpartisane est déposée tout à l'heure à l'Assemblée nationale. 78 articles pour mieux former policiers et gendarmes face aux violences conjugales ou revenir, par exemple, sur la prescription des crimes. Boualem Sansal prend la parole après sa sortie de prison. L'écrit écrivain franco-algérien a été libéré il y a 10 jours après une grâce du président algérien. Emprisonné pendant 1 an pour atteinte à l'unité nationale, c'est avec des mots choisis aujourd'hui scrupuleusement que l'écrivain raconte ses conditions de détention.
La prison, on peut s'y habituer. Il ne faut pas croire que c'est si terrible que ça.
Ah bon ?
Oui, on s'habitue. On a des amis, on a sa petite routine, la cellule, la cour, l'infirmerie. Parce qu'on est dans une prison, on est obligé de garder sa souffrance pour soi. C'est silence. On pleure dans sa cellule le soir, tout seul, dans sa tête. Être prisonnier, c'est une humiliation. On vous fout du matin et du soir. Vous êtes comme un toutou. Viens ici, assieds-toi là-bas, va là-bas, truc. C'est terrible. On est un chiot, quoi.
L'écrivain Boualem Sansal sur France Inter, il s'exprime dans différents médias, France 2, Le Figaro. Il a également tenu à apporter son soutien à Christophe Glaise, journaliste français emprisonné en Algérie et qui sera jugé en appel la semaine prochaine. Une sortie qui se fera sans escorte tout à l'heure. À Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, un détenu de la prison de haute sécurité a obtenu par la justice de pouvoir sortir pour un rendez-vous avec un potentiel employeur à Lyon. Les syndicats de policiers s'insurgent. Le garde des Sceaux veut revoir le cadre législatif d'application des peines.
Le Sénat va devoir repartir de zéro.
Et ce week-end, la quasi-totalité des députés ont rejeté la partie recette du budget. C'est donc la version initiale du gouvernement qui va devoir être à nouveau étudiée. Un rejet massif qui pousse le Premier ministre à réunir les membres de son gouvernement. Ce matin, avant les chefs de groupe parlementaires, Pierrick Bonneau, de nouvelles discussions pour éviter une nouvelle crise.
Tous les voyants sont au rouge, mais Sébastien Lecornu continue d'y croire. Le rejet massif des recettes du budget 2026, pas surprenant, réagit le chef du gouvernement dans les colonnes de la Tribune dimanche. C'est objectivement le texte le plus difficile pour trouver des compromis. Sébastien Lecornu mise sur la deuxième lecture le mois prochain pour obtenir une majorité. Il faudra prendre en compte, dit-il, le jeu tactique destructeur de la France insoumise notamment. Le Premier ministre renvoie la balle aux parlementaires en les mettant en garde contre l'anti-parlementarisme brutal dans lequel le pays pourrait basculer. Mais pour l'instant, les oppositions sont bien loin d'endosser l'échec des discussions budgétaires. Sébastien Lecornu ne peut pas regarder tout ça en observateur, fait remarquer un socialiste. C'est à lui de discipliner son propre camp, notamment à droite, pour obtenir un compromis. S'il n'y arrive pas, prévient un interlocuteur du Premier ministre, alors on pourra parler d'une crise de régime.
Pierrick Bonneau est pour la chef de file des députés Rassemblement National, Marine Le Pen. Ce rejet quasi unanime du budget de l'État à l'Assemblée doit conduire à une démission du gouvernement et à une dissolution.
La neige fait des heureux en montagne.
Et elle est tombée abondamment dans les stations d'Isère ce week-end et ça devrait continuer encore aujourd'hui. De quoi donner envie de glisser, Antoine Balandra, comme ici au col de Porte dans le massif de la Chartreuse.
C'est un bruit qui fait plaisir. Le bruit des pas qui s'enfoncent dans la neige. Un appel entendu par Maude, venue de Grenoble.
On est content de voir de la neige. Mais les enfants, il faut les rééquiper. Mais une fois qu'on est là, ils sont contents.
Maude est accompagnée de sa fille.
Léonie, 6 ans.
Bien trop occupée à monter dans sa luge violette.
Allez, tu freines d'abord. Tu freines.
Juste à côté, Pierre et son collègue Younes chaussent les skis de fond.
Et ouais, ça y est, première fois de l'année. On est de Paris.
Vous êtes venu exprès ?
Non, on est venu pour travailler. On a un chantier sur Grenoble toute la semaine. Faudra pas le dire à mon patron.
Ah ouais. Descendu un peu plus tôt, quoi.
C'est ça, exactement, pour profiter.
Younes n'est pas hyper rassuré.
Première fois ce qu'ils font.
On va tester tout ça.
Donc c'est le collègue qui vous a traîné là ?
C'est ça. Et lui s'y connaît très bien, du coup, je fais confiance.
Je vous donne les bâtons.
Merci beaucoup. Vous avez 2-3 petits conseils à me donner ?
Ne tombez pas.
Ok. Parallèle. Et c'est parti !
Ah non, me pousse pas !
Voilà, dans la neige fraîche et dans le paysage de carte postale du col de Porte à 1326 mètres d'altitude, l'histoire retiendra que Younes a parcouru 20 mètres avant de tomber.
C'était prévu, c'était annoncé. Hein.
Reportage ici, Isère d'Antoine Balandrin pour France Info. Vous direz à mon patron, moi aussi, que j'ai luge, possible ou pas. Je vous accompagne.
Ah oui, venez avec moi. Vous déjà tout à l'heure du 18h30.
Voilà. Ouais. À toute Christine.
Cela dit, ça n'a pas glissé autant que ce week-end, Christine Peignan.
Mais
merci,
non,
Solani.
Alors on a un peu de pluie, effectivement, qui tombe sur cette neige qui est tombée. Mais à basse altitude, la limite pluie-neige s'est relevée à 1800 mètres d'altitude. Mais on attend de bons paquets de neige, effectivement, surtout dans les vallées des Alpes frontalières. Nous avons de forts cumuls sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère également. Et puis de la pluie, hein, de bons paquets de pluie entre l'Aquitaine et le Massif central pour aujourd'hui.